Bonjour à tous, aujourd'hui les microbes sur tous les tons. Ils sont partout, dans la terre, les océans et les déserts. Ils vivent d'incroyables épopées sous nos pieds. Ils ont beaucoup de pouvoir et en particulier celui de donner la vie, car sans eux, nous ne sommes rien. Ils sont invisibles, ce sont les microbes. Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, va nous embarquer cet après-midi dans le monde microscopique des bactéries et des champignons. Ce sont eux, les véritables héros du royaume du vivant. Marc-André Sellos va nous parler de ces champions de la vie associative et des couples qui durent. Les bactéries et les champignons nous donnent énormément, mais nous leur donnons aussi beaucoup. Mais avant de découvrir cet univers incroyable, je vais vous présenter une troupe qui propose des comédies musicales improvisées à partir d'un thème scientifique. C'est assez bluffant, c'est aussi l'occasion de finir l'année en chanson. Cette troupe s'appelle New, trois de ses membres sont avec nous pour la dernière de la saison. Vous allez comprendre comment ils travaillent, mais surtout vous allez entendre comment ils vont mettre en musique les propos de Marc-André Sellos.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Florian Bartsch, Antoine Lefort et Perrine Maigret, trois membres de la troupe News, sont donc avec nous. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour Florian.
Bonjour.
Vous êtes trois membres de cette troupe qui fait des spectacles scientifiques improvisés. Florian Bartsch, vous êtes un des deux directeurs artistiques de cette compagnie. Parlez-nous de ces spectacles. Quel est le principe ?
Le principe, c'est une comédie musicale improvisée dont le public est auteur du titre et de point de départ. Et après, c'est l'impro en direct. Des musiciens, c'est des bêtes en jazz et en tout style de musique. Donc, ils composent, qui font la musique en direct. Les chanteurs, les comédiens chanteurs improvisent donc les chansons, le jeu. Même les costumes sont improvisés. On ne va pas à la radio. Et un illustrateur va dessiner le décor en direct. Comme ça, c'est vraiment une aventure donc, de théâtre, de musique, de danse et des arts visuels. Et nous, on a inventé donc New Science. C'est une comédie musicale à la base d'un sujet scientifique. Et on a créé ce spectacle en 2014 pour la Cité des Sciences. Et depuis, on le joue et on est très content de le jouer. Donc, on se laisse inspirer par les scientifiques pour interpréter ça en comédie musicale.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue pour New, la comédie musicale improvisée. Le spectacle que nous allons créer ce soir ne sera jamais rejoué. L'histoire que nous allons écrire est unique et c'est avec votre aide que nous allons vivre cette véritable aventure théâtrale et musicale. Veuillez accueillir notre maître de cérémonie, Florian Bartsch.
Antoine Lefort, expliquez-nous comment ça se passe. Il y a d'abord un scientifique qui vient présenter son sujet au public.
Exactement. Il y a une présentation d'une dizaine de minutes environ, un peu comme un TED Talk. Et suite à cette présentation, on prend des notes furieusement dans notre coin. Les comédiens essaient de faire ressortir les points essentiels. Et les musiciens se laissent un petit peu inspirer, essaient de trouver des correspondances pour l'instant assez émotionnel. Ça se passe à l'intérieur pour les musiciens. Et puis ensuite, on se lance avec le public qui nous donne le titre. On se lance dans une heure de spectacle improvisé en essayant d'illustrer, de trouver des correspondances avec ce qui vient de nous être présenté.
Florian Bartsch, comment est-ce que vous choisissez les sujets ?
Concrètement, je cherchais sur expert.fr. C'est un site des femmes scientifiques. Et j'ai sélectionné donc quelques expertes scientifiques que j'ai contactées. Il y a certains qui m'ont répondu, donc comme ça, on les invite par le sujet intéressant, peu ordinaire et peut-être intéressant pour un grand public.
Le dernier sujet, c'était autour des bactéries.
Tout à fait.
C'est facile de mettre en spectacle les bactéries ?
C'était plus facile qu'on a pensé, en fait. C'était très intéressant. C'était une présentation de 13 minutes autour des bactéries de Fabrizia Stavrou, de l'Institut Pasteur. Et du coup, on a interprété ça et c'était très réussi. Le public a bien aimé. Et en plus, la scientifique, elle est intervenue durant le spectacle pour parfois mettre des choses plus concrètes, plus difficiles, pour vérifier si ça correspond à la réalité ou pas. Elle s'est beaucoup amusée.
Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Marc-André Sellos, qui est l'invité des Saventuriers aujourd'hui, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste des champignons et du monde qui vit sous nos pieds et qui va nous raconter tout ça dans un instant. Et vous avez accepté d'illustrer ces propos. Quand on illustre des sujets scientifiques, Perrine Maigret, il faut connaître un peu les sciences ?
Je pense qu'il faut une curiosité pour pouvoir illustrer donc les sujets scientifiques. Je suis une ancienne littéraire, bac littéraire, option latin, études de traduction, donc linguistique plutôt. Mais j'ai une vraie curiosité aussi pour ces sujets-là. Et il s'agit surtout de s'amuser, de laisser rebondir l'imaginaire et voilà.
Antoine Lefort, comment est venue cette idée de spectacle scientifique ?
Nous, on aime la comédie musicale et on s'est rendu compte que c'était un vecteur merveilleux pour faire des mélanges et pour faire des rencontres, en fait. Et donc, mélanger la comédie musicale et la science, ça ne s'est jamais fait. Et c'est une manière géniale de vulgariser avec une plus-value artistique forte.
Florian Bartsch, quelle est la réponse du public ? Comment le public accueille-t-il ces spectacles ?
Tout d'abord, un peu suspicieux. Et finalement, enchantés, dans les deux sens du terme, ils sont pris par l'histoire, mais aussi ils chantent avec nous. Parce que nous, on crée des chansons improvisées avec des refrains, etc. Donc aujourd'hui, on va entendre des chansons également. Donc peut-être dans le studio, ça va chanter également. Donc c'est à vous. donc le public reçoit ça très bien. Parce que c'est un certain décalage par rapport à cette thématique scientifique. Et du coup, c'est même peut-être une compréhension plus profonde de la thématique.
Marc-André Sellos, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous allez nous parler de votre sujet, les champignons, les bactéries, les microbes et toutes les symbioses qu'il y a entre les plantes, les animaux et ces microbes. Vous êtes impatient d'entendre ce qui va sortir de cette troupe New ?
Ah oui, très curieux parce que on va parler des harmonies du vivant et j'ai beaucoup d'impatience de voir comment elles vont être transformées en harmonie musicale. Là, je suis dans l'expectative et plein d'intérêt.
Alors tous les trois, vous êtes prêts ? Comment est-ce que vous allez procéder, Perrine ?
Avec une écoute artistique, presque enfantine. Ah tiens, ce mot, ça, c'est un peu percussif. Ça me donne une idée de rythme. Ah tiens, ça fait un peu vieille soul. Rien que harmonie et symbiose. Je me suis dit que ça, c'est des mots-clés qui sont forcément avec un champ lexical très riche et donc étonnamment musical aussi.
Antoine Lefort, vous êtes déjà inspiré ?
Bien sûr, j'attends d'être nourri par tout ce que Marc va nous dire, mais oui, j'attends avec impatience.
Florian Bartsch, Antoine Lefort et Perrine Maigret de la troupe New, vous êtes donc prêts ?
Oui. Oui.
On se retrouve dans un instant. Marc-André Sellos, vous êtes prêt aussi ?
Ah, tout à fait.
À tout de suite.
Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui. Thank you.
c'était Juliette Armanet.
Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Le microbiote est à la mode en ce moment. Le microbiote, ce sont ces millions de bactéries qui tapissent les parois de nos intestins. Ces bactéries sont essentielles à notre santé. Mais les micro-organismes ne sont pas que dans nos intestins, ils sont partout. Sans eux, nous ne savons pas respirer. Sans eux, la végétation ne se développe pas. Le monde invisible qui nous permet de vivre, c'est la spécialité de Marc-André Sellos du Muséum National d'Histoire Naturelle. T-shirt et bermuda, il a l'air décontracté. Mais c'est le meilleur sur le sujet. Il est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Actes Sud. Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Marc-André Sellos, on le sait depuis peu de temps, finalement, le concept d'organisme n'a plus de sens. Un animal ou une plante ne peut pas vivre sans les micro-organismes qui l'habitent.
Absolument, elles ne sont jamais seules parce qu'en fait, nous sommes des armoires à micro-organismes. Nous sommes tellement énormes vis-à-vis de bactéries ou de champignons qu'ils peuvent très bien se... J'utilise souvent l'image de dire c'est comme une paire de chaussettes dans une valise déjà pleine. Il y a toujours la place pour rajouter une paire de chaussettes. Et des micro-organismes, les plantes et les animaux en sont pleins. On le savait depuis très longtemps parce qu'on les avait vus. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'ils habitent les fonctions des organismes. C'est eux qui aident les organismes à vivre, à manger, à se protéger, à se développer. Ils ont un rôle, en fait, crucial. Et c'est ça la nouveauté, c'est la découverte qu'on ne fait pas une plante, on ne fait pas un animal, sans micro-organismes.
Ça veut dire que sans champignons, sans bactéries ou sans microbes, c'est le sac dans lequel on met tous les microbes, il n'y aurait pas de vie.
Ben, il n'y aurait pas la vie telle qu'on la connaît. Et ça veut dire qu'il y a, on parlait d'harmonie tout à l'heure, il y a justement une interaction, une coopération entre les microbes qui nous habitent et nous-mêmes, qui nous permet d'être ce que nous sommes et d'avoir le succès écologique, le succès évolutif, le fonctionnement que nous avons. Et c'est là qu'il y a une harmonie à trouver, effectivement, c'est qu'il faut comprendre comment marche cette interaction à bénéfice réciproque. Parce qu'eux-mêmes en dépendent vitalement, tout autant que nous.
Alors, comment ça marche, ces mariages, ces couples qui durent, c'est votre travail. Mais avant de nous expliquer ce que vous faites vraiment, est-ce que vous pouvez illustrer vos propos avec un exemple, celui peut-être de l'introduction des pins en Amérique du Sud et en Afrique, au 19e ?
Oui, au 19e et un petit peu avant d'ailleurs, lorsqu'on est arrivé avec des bateaux en bois dans les régions tropicales, on a voulu avoir des essences qui permettaient de remater les bateaux, de les réapprêter après une traversée parfois difficile. Et on a essayé d'introduire les pins qui poussent vite, droit. Chez nous, ça pousse n'importe où. C'est les premiers pionniers sur des prairies qui poussent vite et droit, qui font un bois, un périnier de résine qui était tout à fait à même d'aider à réapprêter les bateaux. Et en fait, ils ne poussent pas. Quand vous plantez une graine, elle crève. Elle fait 2-3 aiguilles vertes qui jaunissent et elle meurt. Puis très rapidement, on a empiriquement compris comment faire, et vous allez voir en fait qu'on a introduit des microbes. On a soit introduit du sol d'Europe, soit amené des pins déjà enracinés. Et en fait, on a amené des microbes du sol dont les pins dépendent vitalement, qui sont partout chez nous, tant qu'on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on a mis tellement longtemps à comprendre qu'ils étaient vitaux, mais qui sont nécessaires pour que le pin puisse exploiter le sol. Ce sont des champignons qui s'associent aux racines. C'est une association qu'on appelle une mycorhize, parce que c'est à la fois du champignon myco et de la racine rhiza. Et cette association permet en fait au pin de se nourrir. Et ils peuvent pas le faire seuls. Chez nous, on le voit pas, parce que ces champignons sont partout. C'est les champignons que vous ramassez sous les pins. C'est des lactaires, c'est des amanites. Là-bas, ils n'étaient pas là. Et là, brutalement, on découvre qu'on fait pas un pin sans champignons.
Quand vous parlez des lactaires, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais en dessous, il y a beaucoup plus que le lactaire qui sort du sol.
Ah bah oui, parce que là, les gens doivent être perdus, parce que les lactaires, on les voit, ça n'a pas l'air d'être des microbes. Le problème, c'est que ces champignons qu'on ramasse en automne ne sont que la partie émergée d'un iceberg qui, lui, est souterrain, notamment associé aux racines des plantes dans les cas dont on parle, et qui est microscopique. Donc l'essentiel de la vie du champignon, c'est une vie de microbes, c'est-à-dire qu'ils sont petits.
Avec des dizaines de kilomètres de... racines, on peut appeler ça comme ça?
Ou de filaments. Leur morphologie, c'est des micro-filaments qui font 1 à 10 millionièmes de mètres. C'est tout petit hein, en diamètre, mais par contre en longueur, il y en a des kilomètres, il y en a des centaines de kilomètres dans un gramme de sol. Et ces champignons, en fait, explorent le sol. Et c'est pour revenir justement à nos pins, mais ils ne sont qu'un exemple d'une règle générale dans le monde vivant. Les plantes s'associent à des champignons qui vont aller chercher très loin l'azote, le phosphore, bref, et l'eau, bref, tout ce qu'une plante peut attendre d'un sol.
Et donc Marc-André Sellos, vous allez nous raconter ce monde qui vit sous nos pieds à l'échelle du micromètre. C'est là que se situe le véritable royaume du vivant.
Hélas. Je dis hélas.
Pourquoi
parce que personne ne l'a vu. D'abord, le sol n'est pas transparent. Deuxièmement, nous sommes beaucoup trop gros pour prendre conscience de cette pâte microbienne qui est présente partout autour de nous. On est beaucoup trop gros pour faire de la biologie, c'est malheureux. D'ailleurs, on le sait bien parce que dans une salle de TP, la première chose qu'on trouve, c'est des microscopes. C'est un aveu, ça. Et par contre, en fait, les écosystèmes terrestres ne sont pas la partie que nous voyons. Ils sont sous le sol. C'est là que se trouve l'essentiel des espèces. C'est là que se trouve un tiers de la masse des plantes. Bon, ça, on ne le devine pas, parce que c'est des toutes petites racines qu'on a bien du mal à arracher.
On dit même que c'est la moitié de la biodiversité mondiale.
Alors, pour ce qui est des écosystèmes terrestres, c'est sans doute beaucoup plus de la moitié. Après, quand on mélange absolument tout, avec les océans et tout, peut-être, oui. C'est des estimations difficiles à faire, mais moi j'aime bien cette idée qu'en fait, la vraie diversité des écosystèmes terrestres, nous croyons qu'ils sont faits de plantes et d'animaux, ben non, ils sont faits de microbes qui sont dans le sol. Mais aussi d'ailleurs, et on va sans doute en reparler, dans ces plantes et dans ces animaux.
Alors, il y a une phrase dans votre livre que j'aime bien. « Le monde visible n'est que l'écume des interactions microbiennes ».
Parce que tout ce que nous voyons est co-construit avec des microbes. Tout à l'heure, on parlait de mitochondries, alors le mot a dû paraître un petit peu bizarre. Si je respire, c'est que j'ai au fond de mes cellules des bactéries qui sont capables d'utiliser l'oxygène et le sucre que je leur apporte pour faire mon énergie. Et ceux qui parlent devant ce micro, ce sont largement mes mitochondries. Donc, effectivement, le monde est co-construit avec ces microbes.
Alors, encore une histoire, celle du Kentucky 31. C'était une céréale ?
Oui, une graminée, une de ces herbes qu'on a dans les prairies. Et ça, c'est l'histoire des fausses bonnes idées quand on ne prend pas en compte les microbes. Elle a été sélectionnée en Amérique dans les années 30, dans le Kentucky. Et la sélection a abouti dans les années 40 à la commercialisation d'une herbe qui poussait vraiment dru, abondamment, et dont on a pensé qu'elle allait améliorer les pâtures américaines. En fait,
donc elle était destinée à nourrir les animaux.
Exactement. C'était pour améliorer la valeur fourragère des prairies de l'Ouest américain, et d'ailleurs aussi d'Australie, parce qu'on l'a très vu devenir en Australie. Et quand il n'y a eu plus que ça dans les champs, on s'est aperçu que le bétail avait des tas de problèmes. Il vivait la nuit, dormait le jour, il perdait ses sabots, moins de lait, des avortements 30% plus fréquents, donc moins de petits. C'était une vraie catastrophe. Et la catastrophe, c'est que, sans le vouloir, on avait sélectionné un champignon qui vivait dans la plante, qui se transmettait par les graines, et en sélectionnant les graines qui donnaient les plantes qui poussaient mieux, on a juste sélectionné le champignon le plus toxique pour les insectes et aussi pour le bétail. Alors évidemment que ça pousse bien, personne n'en mange, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça à manger, et là, le désastre commence avec un coup terrible pour l'agriculture australienne et américaine, parce que maintenant, c'est une plante invasive.
Marc-André Sellos, quelle est la force de ces champignons? Ils sont tout petits, ils se déplacent avec le vent, leur nombre est infini. Quelle est leur force encore?
Les champignons, comme tous les microbes, cachent une force que leur taille ne permet pas de voir. Mais quelque part, ils sont producteurs de molécules, ils sont en abondance, qu'on a du mal à se représenter nous, mais qui leur permet de faire un petit peu tout. Et c'est justement ce qui va être intéressant pour les gros organismes, c'est qu'on peut recruter des champignons, ou d'ailleurs des bactéries, pour faire un peu n'importe quoi. Ils sont formidablement diversifiés, le nombre d'espèces dépasse largement le nombre d'espèces animales, même si les insectes font des gros efforts pour être très nombreux en espèces. Et surtout, ils ne marchent pas comme nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On respire, ou quand on a une plante, on fait de la photosynthèse. Les façons de vivre des microbes sont extraordinairement diversifiées. Vous en avez, par exemple, qui peuvent vivre avec du fer et de l'oxygène. Vous, moi, on ne peut pas faire ça. Et donc, ils offrent des solutions, ils offrent des ajouts à la physiologie des plantes et des animaux potentiellement infinis.
Marc-André Sellos, il y a donc beaucoup d'espèces inconnues. J'ai même lu que dans un gramme de terre, on peut trouver plusieurs millions de microbes.
Si vous êtes un microbe, pour vous, un gramme de terre, c'est l'agglomération parisienne pour moi. Vous y êtes, d'une certaine façon, à cette échelle. C'est des organismes qui sont tout petits. Là encore, l'unité qu'utilisent les scientifiques pour en parler, c'est le micron. C'est un millième de millimètre. Ils sont petits et pour eux, un gramme de sol, c'est non seulement très grand, mais il y a plein d'endroits où vivre. À la surface d'un morceau de roche, dans le morceau de roche, à la surface d'un morceau de feuille morte, dans ce morceau de feuille morte. Enfin, c'est un habitat hyper diversifié, quoi. C'est une campagne variée du Massif central pour eux.
Florian Bartsch, du groupe New. Vous pensez que vous êtes prêt à improviser quelque chose après ce que vient de dire Marc-André Sellos, professeur au Muséum national d'histoire naturelle?
Complètement. Je fais entièrement confiance à mon équipe créative de pouvoir inventer une chanson improvisée.
Donc, on va les écouter et ensuite, Marc-André Sellos, vous nous direz ce que vous en pensez.
Arrêtez de m'appeler microbe. Arrête d'avec ton mépris. Tu sais que tu ne peux pas vivre sans moi. Sans moi, il n'y a pas de vie. Arrête de me mettre dans ton coin, de me faire tomber dans l'oubli. Il y aura toujours au-dessus de toi le fantôme de Mycorhiza. Mycorhiza, il n'y a que moi qui t'aime comme ça. Mycorhiza, il n'y a que moi qui t'aime comme ça. Mycorhiza, ce nom ne l'oublie pas. Il n'y a pas de vie sans moi.
Alors là, moi je trouve ça totalement bluffant. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ah ben moi je veux la vendre pour mes cours, hein. Parce que je pense que ça intéressera plus les étudiants que ce que je leur raconte. Mais c'est génial, en plus il y a même une conclusion qui a été tirée, qu'on n'avait pas tirée explicitement, qui est qu'on ne peut pas, il faut arrêter de les éradiquer, il faut les outils pour l'aménagement de l'environnement ou la production de demain, c'est justement de vivre avec, de composer avec et de comprendre mieux. Oui, enfin c'est génial. Moi je...
Pas de vie sans les bactéries, pas de vie sans les champignons, pas de vie sans les microbes.
Exactement. Et il ne faut pas arrêter de les appeler microbes. Il faut arrêter de dire que les microbes, c'est sale, c'est pas bon. Affrontons la chose. Ce qu'il faut, c'est redonner leur statut aux microbes. Et avec une chanson, ça passe encore mieux.
Marc-André Sellos, on vous retrouve dans un instant. Zero, one, one, zero, zero. My backflip, oh Zama, Zama, oh Zama, kiss me. Yeah, the way the sun really wants it to be. Whiskey soda, pizza, G&T's empty. Chips and pizza, pulls a song to the bottom. Oh Zama, Zama, oh Zama, kiss me.
Blood, c'était Al Jay.
Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Passe-moi le sel, je te donne du sucre. C'est un peu comme cela que l'on peut résumer ce qu'est la symbiose entre les champignons du sol et les racines des plantes. 8 plantes sur 10 cohabitent forcément avec des champignons. S'intéresser au monde microbien, c'est essentiel pour comprendre le monde. Les recherches de Marc-André Sellos portent sur les associations à bénéfice mutuel qui impliquent des champignons, des microbes. Les microbes structurent la nutrition et la santé des macro-organismes. La masse microbienne nourrit et protège l'hôte. Dans la besace de Marc-André Sellos, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, d'innombrables histoires de liaisons heureuses. S'intéresser au monde microbien, c'est essentiel pour comprendre le monde. C'est ce que nous explique Marc-André Sellos. D'après Francis Allais, qui est un grand chercheur, et le moins que l'on puisse dire est que c'est une référence, vous êtes, Marc-André Sellos, aussi à l'aise dans votre laboratoire que sur le terrain. Mais où est-ce que vous allez sur le terrain et qu'est-ce que vous allez y faire ?
Ah, j'y vais pas assez souvent, parce que c'est quand même de là que sort l'inspiration de mon activité scientifique. Moi, je fais de l'écologie des microbes, et notamment des microbes qui sont en interaction avec les plantes. Et même plus particulièrement, des champignons en interaction avec les racines des plantes. Et donc, on peut faire ça partout. Mais en fait, vous savez très bien qu'un scientifique fait ça quand il a le temps et l'argent. Du coup, c'est un peu composite dans ma vie. Mes activités au muséum me mènent dans des forêts de la région parisienne pour essayer d'étudier qu'est-ce qu'il y a sur les racines des plantes. J'ai aussi une équipe à Gdańsk, à l'université de Gdańsk. Nous étudions les interactions entre les racines des orchidées et des champignons qui sont vitaux pour le développement de ces orchidées. Et puis j'ai aussi une petite équipe à Viçosa, au Brésil, qui travaille sur les orchidées qui cette fois-ci poussent sur les branches des arbres, les fameuses orchidées épiphytes. Et on essaie de regarder comment les champignons les aident à faire ce tour de force. C'est quand même pas l'endroit où mettre ses racines.
Comment vous travaillez ? Vous fouillez le sol ?
Oui, ou alors on grimpe aux arbres, quand c'est des orchidées qui poussent sur les arbres. Effectivement, nous, on essaie de regarder ce qui se passe vraiment dans le sol, donc on y met les mains. Le sol, pour nous, c'est la partie noble des écosystèmes. Et on essaie d'étudier quels champignons sont là. On utilise des méthodes de biologie moléculaire modernes pour essayer de voir quels gènes s'expriment dans le champignon et dans la plante, et donc quelles fonctions sont remplies, et essayer de voir comment tout ça fonctionne. Et puis surtout, on essaie de faire ça en essayant de comprendre comment ça s'est mis en place dans l'évolution, en regardant un certain nombre d'organismes pour reconstituer comment ça se passait dans leurs ancêtres et comment ils en sont arrivés là où ils en sont ensemble.
Le but, c'est de comprendre ces symbioses ?
De les comprendre et de comprendre comment finalement elles façonnent l'écologie des plantes, si on voit ça du côté des plantes. Bon, nous, on aime bien aussi comprendre l'écologie des champignons parce qu'on est aussi assez mycologues. On veut comprendre comment tous ces gens-là arrivent à se développer dans les écosystèmes.
Moi, ce que je comprends, c'est que les plantes et les champignons ont besoin les uns des autres pour survivre.
Ah mais absolument, et c'est réciproque. Bon, l'un des modèles que nous étudions en France, c'est la truffe. La truffe, c'est embarrassant à produire. D'ailleurs, on ne sait toujours pas clairement la produire, parce que la truffe est un de ces champignons qui vit sur les racines des plantes. Elle forme des associations avec les racines d'arbres comme des chênes, des noisetiers. Et d'abord, il faut planter des arbres pour les avoir. Et puis après, il faut se débrouiller pour manipuler l'environnement pour qu'elles s'installent et puis qu'elles produisent la partie charnue que l'on consomme. Ça, c'est un vrai challenge pour le microbiologiste. Et clairement, la truffe, on ne la fait pas sans arbres, ce qui complique largement la production de truffes.
Est-ce que vous avez compris comment les champignons choisissent leurs racines ?
On a un peu l'impression aujourd'hui, là c'est pas mes travaux à moi, ce sont d'autres travaux qui sont publiés, que on a une première étape où tout le monde essaie de s'associer avec tout le monde. Et puis après on voit si ça marche. Ça marche, ça veut dire est-ce que la plante donne du sucre au champignon, auquel cas il reste. Est-ce que le champignon amène de l'eau, de l'azote, du phosphate, bref toutes les ressources du sol qu'il exploite pour le compte de la plante, est-ce qu'il en amène. Et donc après que les couples se soient mis en marche, ils fonctionne ou non. Et donc le champignon continue à donner s'il reçoit, la plante continue à donner si elle reçoit, et finalement vous sélectionnez au bout d'un certain temps les couples qui marchent. En fait, c'est des couples qui s'assemblent par testing.
J'ai cru comprendre que je te donne du sucre et toi tu me donnes du sel par exemple.
C'est absolument le cœur de l'échange, effectivement. Le champignon a besoin de sucre, la plante a besoin qu'on exploite pour elle le sol, et c'est ça qui s'échange. Mais il y a plus encore. On le sait très bien parce que maintenant on peut faire des plantes sans champignons au laboratoire et on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus sensibles aux maladies. Même sur leur partie aérienne, où il n'y a pas de champignons, elles sont plus sensibles aux chenilles ou aux champignons qui rendent malades les feuilles. En fait, le champignon construit l'immunité de la plante. Il la défend directement sur les racines, mais il modifie la plante dans tout l'organisme de telle sorte que la plante est mieux capable de se défendre quand elle a ses champignons.
Et depuis quand les scientifiques ont-ils compris ça? Depuis qu'il y a ces appareils modernes d'investigation?
En fait, oui, c'est vrai qu'on a des outils maintenant pour aller au fond de ça. Vous savez, ces associations ont été découvertes à la fin du 19e. Et très longtemps, il y a notamment un manuel qui a longtemps circulé à l'université, l'ouvrage de Raoul Colery, Le parasitisme et la symbiose, qui disait, ces champignons, c'est des parasites pas très graves. Ils sont sur toutes les racines, ils font pas trop de mal, mais c'est des parasites légers. Ce n'est qu'au tournant des années 70-80 qu'on commence à comprendre, malgré quelques précurseurs qui ne sont pas entendus, qui sont vitaux et qu'ils ont un rôle physiologique. Ce ne sont pas des opportunistes. Ce sont des parties du fonctionnement de la plante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il y a maintenant une explosion de ça. En 1960, Monsieur Bernard Boulard, Université de Rouen, est le seul Français à s'occuper de ça. Aujourd'hui, je ne peux pas vous faire la liste des dizaines de labos qui s'occupent des interactions entre les racines des plantes et les champignons du sol. Il y en a des dizaines, il y en a de très brillants à l'INRA, il y en a au CNRS, il y en a dans toutes les universités qu'on peut imaginer. C'est une explosion parce qu'on comprend aujourd'hui qu'on s'est longtemps trompé en pensant que les plantes exploitaient le sol. Elles exploitent des champignons qui exploitent le sol.
Et puis ça va beaucoup plus loin. Les champignons permettent de faire énormément de choses. Les champignons sont en relation avec notre alimentation directement. S'il n'y a pas de champignons, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas manger.
Alors, c'est sûr. Et là, c'est des champignons qui ont une écologie un peu différente, mais qui font que nos sociétés ne sont jamais seules non plus. C'est tous ces champignons qui nous aident à fermenter des aliments. Il y a aussi des bactéries qui font ça. Et là, on retrouve ce rôle qu'ont symétriquement les bactéries et les champignons. Par exemple, quand vous faites du fromage, vous utilisez des champignons.
Le pain?
Le pain également, avec des levures qui sont à peu près les mêmes que celles de la bière ou du vin. Donc en fait, nous avons aussi, cette fois-ci collectivement, pas individuellement, un lien de symbiose, on peut le dire, c'est-à-dire de vie ensemble et d'association à bénéfice réciproque, avec tout un tas de champignons qui nous aident à préparer nos aliments.
Les champignons sont arrivés avant les plantes dans l'histoire de l'évolution.
Les plantes ne sont pas arrivées sans les champignons. Effectivement, elles proviennent d'algues qui, quand elles sont sorties de l'eau, étaient complètement impréparées à utiliser les ressources du sol, puisqu'elles vivaient dans l'eau. Et on sait très bien, par des fossiles qui ont 400 millions d'années, que les premières plantes n'avaient pas de racines. Mais elles avaient déjà des champignons qui les aidaient à exploiter le sol. Et en fait, si un jour sont apparues les plantes qui nous entourent, c'est parce que c'est produit de cette association. Et ça, ça a mis de beaucoup de végétaux sur Terre. Du coup, les poiscailles sont sortis de l'eau parce qu'il y avait à manger. Et donc, nos ancêtres sont sortis de l'eau. Et comme ces plantes ont fait une photosynthèse abondante, elles ont produit plus d'oxygène. Donc, il y a eu assez d'oxygène pour faire respirer de très gros animaux. C'est là qu'on a commencé à avoir des gros animaux dans l'eau et sur Terre. On n'aurait pas eu de tyrannosaures, on n'aurait pas de lions, on n'aurait pas nous, s'il n'y avait pas cette quantité d'oxygène qui a été produite par les plantes après qu'elle soit sortie de l'eau. Donc cette association avec des champignons a potentialisé, a rendu possible les écosystèmes terrestres que nous connaissons et toutes ces formes de vie qui nous entourent, et notamment nous, in fine. C'est une des choses qui a prédisposé à la vie telle que nous la connaissons.
Marc-André Sellos, j'ai très envie d'entendre New, la compagnie New avec Antoine Lefort et Perrine Maigret et Florian Bartsch exprimer ce qu'ils ont compris de ce que vous venez de dire.
Moi je me présente, je m'appelle Gillette, je suis la fille du père Raoul, scientifique de grand-père en père. On prend le métro, on prend le train, on va s'éloigner du métro parisien. Dans les forêts, il y a plein de secrets. Oui ma bonne dame, faites pas cette tête. On va creuser, creuser, parce que c'est vrai, le scientifique avec ses beaux tubes à essai, il fait pas que ça, il va aussi creuser, creuser. Dans la forêt de Rambouillet, on fouille dans la forêt de Mennecy, on fouille dans le bois d'Arcy, on fouille, on fouille, on fouille, on fouille dans la forêt de Rambouillet, on fouille dans la forêt de Mennecy, on fouille, c'est pas de ma faute si mes mains, mes ongles sont terreux. Mesdames, tant pis pour vos beaux yeux. Allez, je vous laisse. Mon père Raoul, un jour il sera célèbre devant les fous.
Alors, Marc-André Sellos, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson ?
Ah bah, on saura quoi chanter maintenant en allant en forêt. Mais effectivement, oui, bon, ça c'est une chose à souligner. Je pense qu'aujourd'hui, la biologie essaie de sortir du labo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des beaux tubes à essai bien propres d'un côté. Et quand on veut faire de la science qui renseigne sur le quotidien, il faut aller dans le quotidien. Donc il faut sortir et on est souvent par forêt et truffière.
Vous qui aimez communiquer sur la science, vous qui aimez emmener des gens en forêt, est-ce que finalement le spectacle, ce n'est pas un biais supplémentaire pour faire découvrir la science ?
Oui, alors, bon, il faut être honnête là. Sur les microbes, le spectacle,
oui,
il est intime. Hein, et donc, il faut passer par le truchement du microscope. Et c'est vrai que, bon, moi je travaille au muséum où on montre des animaux, on montre des plantes. On explore encore la possibilité de montrer des microbes. Alors que les microbes, on l'a vu, c'est la structuration du vivant, et qui sont prodigieusement divers. Ils peuvent être passionnants, mais c'est assez difficile des fois à expliquer parce que ce qu'ils ont de remarquable ne se voit pas. Et on a vraiment l'habitude de regarder. Cela dit, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, quelque part, il y a tout un tas de propriétés que nous voyons. Bon, on parlait à l'instant de notre alimentation, on parlait de la plante, on parlait des animaux. Il y a tout un tas de choses qu'on voit qui sont construites par eux et qu'on peut voir comme des preuves de leur présence. Mais c'est quand même un truc assez difficile à expliquer. Et moi, je suis content de voir aussi que les programmes d'enseignement maintenant font la part aux microbes parce que c'est exactement le programme que Bachelard définissait pour la science. C'est une révolution. C'est-à-dire qu'il faut changer le point de vue des gens pour comprendre ce dont est fait le monde. Et aujourd'hui, il faut renverser ce qu'on voit. C'est ce qu'on ne voit pas qui est important.
Come on, skinny love, just let's sing it. To pour a little salt we will never hear. My, my, my. My, staring at the sink of water across the needle.
Kenny Love, c'était Bon Iver.
Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Lorsque l'on écoute Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, on découvre que, contrairement à ce que l'on croit tous, une vache ne se nourrit pas d'herbe. Elle se nourrit des bactéries qui ont fait fermenter l'herbe qu'elle a broutée. Nous respirons grâce aux bactéries et sans les microbes, nous n'aurions pas accès au pain, au vin ou au lait. À la fin de ce dernier chapitre, nous retrouverons les membres de la troupe New pour une dernière improvisation autour de ce monde minuscule. Marc-André Sellos, les plantes et les animaux sont habités par les microbes. Il y a des organismes hébergeurs, il y a des passagers. Il y a des passagers de toujours et des passagers d'un jour. Comment ça marche avec les animaux? Pareil, c'est comme pour les plantes. Les animaux ne peuvent pas vivre sans bactéries. Nous-mêmes, humains, nous sommes des animaux. On ne peut pas vivre sans ces microbes.
Alors absolument. On retrouve d'ailleurs une présence qui à la fois aide à l'alimentation et à la défense, mais bien plus. En fait, bon, nous sommes nous-mêmes peuplés de microbes. On parle beaucoup en ce moment du microbiote intestinal, mais ce n'est qu'une facette. On a un peu l'impression qu'on est une poche à bactéries, des bactéries bien rangées dans un coin. Mais pas du tout, il y en a partout. Il y en a dans le nez, sur la peau et partout. Elles ont des rôles, notamment sur la peau et dans les muqueuses nasales ou buccales. Ce sont des écrans contre l'installation de pathogènes. On commence à comprendre ça parce que aujourd'hui on a des souris qu'on fait naître par césarienne et que de génération en génération, on élève sous bulle. Nées par césarienne, elles ne sont pas colonisées. Et élevées sous bulle, elles vivent sans bactéries.
Et donc
elles sont incroyables. D'abord, il faut qu'elles boulottent une fois et demie plus qu'une souris normale pour arriver au même développement. Alors, l'avantage, c'est qu'elles sont jamais obèses, ça c'est sûr. Mais ces souris digèrent très mal. Ces souris, si jamais on les met en présence d'un pathogène, attrapent des maladies incroyables. On peut leur faire attraper des maladies de peau qui ne sont même pas des maladies de souris, normalement. Ensuite, elles ont un comportement complètement étrange. Elles sont pas intimidées du tout, elles prennent des risques quand on leur fait faire des tests comportementaux, notamment elles aiment bien la lumière alors que les souris aiment plutôt l'ombre. Elles ont des comportements complètement bizarres et puis elles ont des gros problèmes à mémoriser. Et ce que l'on voit quand on étudie leur cerveau, c'est que les gènes qui permettent de mémoriser, qui sont liés à l'anxiété, à l'inquiétude, ne s'expriment pas de la même façon. Elles sont différentes jusque dans leur cerveau. Si vous renversez la chose, ça veut dire que nous sommes ce que nous sommes, comportementalement, intellectuellement, mais aussi dans notre alimentation, dans notre protection, nous le sommes parce que nous sommes colonisés de ces milliers d'espèces en tout point de notre organisme.
C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un rapport entre le développement du système nerveux et la présence des bactéries.
Absolument, mais il y a même plus. On pense qu'aujourd'hui, l'humeur est liée à des bactéries. Il y a une grande catastrophe au Canada, qui a une inondation qui a forcé des gens à boire de l'eau contaminée par des campylobactères. Et bon, ils ont eu des diarrhées. Puis quelques temps après, ils ont eu des états dépressifs assez bizarres, qu'on interprète en fait comme décontamination par ces campylobactères, qui auraient modifié leur comportement. On sait aussi que la sérotonine, qui est alors une hormone du bonheur, est très largement sécrétée par l'intestin, à la fois par les bactéries qui s'y trouvent, mais aussi par les cellules d'intestin sous l'effet des bactéries. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent vendre de la bonne humeur sous forme de bactéries. En fait, on est loin de savoir exactement si ces traitements de l'humeur sont inoffensifs. Mais on sait très bien qu'en laboratoire, on peut changer l'humeur ou la perception, par exemple, d'images violentes, par tout simplement en faisant bouffer des yaourts aux gens avant.
Toujours à propos des relations entre les animaux et les micro-organismes, j'ai découvert en vous lisant que finalement, une vache ne se nourrit pas d'herbe, mais des bactéries qui ont fait fermenter l'herbe qu'elle a goûtée.
Oui. Les gens pensent beaucoup que les vaches sont des herbivores. Parce qu'effectivement, elles ingèrent de l'herbe. Mais leur corps massif cache en fait une énorme poche proche de l'estomac où elles entassent cette herbe et de l'eau et où en fait se développent des bactéries et des champignons. Et puis aussi d'autres petits unicellulaires qui mangent ces bactéries et ces champignons. Bref, c'est un fermenteur microbien qu'elles alimentent en herbe, mais aussi parce que dans leur salive, elles produisent du phosphate, de l'urée. Bref, au lieu de balancer ces déchets dans l'urine, elle le balance dans la salive et elle le donne à manger à leurs microbes. Et que digère la vache? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une bouse de vache, il y a des petits débris d'herbe dedans. Quand l'herbe passe dans le reste du tube digestif, elle n'est pas digérée. Elle filtre en fait les petites particules, alors il y a de l'herbe qui passe, mais ça ne sert à rien. Et elle va digérer les microbes qu'elle a élevés. Alors il y en a quelques-uns qui restent et qui continuent à faire la foire, donc c'est bénéfique aussi pour les microbes vus comme un groupe. Mais le sacrifice de quelques-uns permet aux autres de rester là, et la vache, ce sont ces microbes qu'elle digère. Et en fait, une vache digère des microbes et elle illustre le programme finalement de tous les animaux. Ils n'occupent pas leur place dans les écosystèmes si on néglige la présence de microbes. Et c'est eux qui sont herbivores dans la vache.
Les microbes sont nos amis. Et puis vous allez plus loin. Vous dites que si on a réussi à coloniser l'Amérique, c'est grâce aux bactéries.
Cette histoire-là est un peu affreuse, hein, parce que pour le coup, ça n'a pas été les amis de tout le monde. Hein.
Oui.
Mais quand on est arrivé en Amérique, on est arrivé avec des armes à feu, avec une armée, mais il y a eu peu de conflits directs. Nous sommes arrivés avec des maladies que nous avions attrapées sur les bestiaux que nous avions domestiqués en Europe et en Asie, la grippe, les oreillons, la rougeole, et ces microbes-là, ce sont dont nous étions porteurs sains. La plupart des gens qui sont arrivés en Amérique n'étaient pas atteints de la rougeole, mais ils portaient ces microbes, et ces microbes se sont propagés dans les populations indigènes, entraînant ce qui était la plus grande guerre biologique, mais involontaire, de l'histoire de l'humanité. 90 millions, pense-t-on, de morts en Amérique du Sud, sur en gros un siècle. 50 en Amérique centrale, une bonne dizaine en Amérique du Nord, nous avons vidé l'Amérique, et quand vous voyez maintenant New York ou Rio de Janeiro, qui sont des villes européennes, c'est l'installation des Européens aidés par leurs microbes qui ont fait place nette. Alors évidemment, ce n'est pas les alliés des Amérindiens qui ont souffert de ces maladies-là. Mais quelque part, on voit que dans la compétition entre deux groupes humains, les microbes peuvent se révéler auxiliaires. Et on voit aussi que les microbes qui hier étaient des maladies peuvent à un moment être des alliés objectifs. Les microbes sont des Janus. Je ne songe pas à nier que la maladie existe et qu'ils puissent la produire. Mais ce sont aussi, et parfois ce sont les mêmes, ça peut être des auxiliaires précieux. Le microbe, c'est comme le couteau.
Marc-André Sellos, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce monde microscopique?
Des bons enseignants. Et ça, c'est important de le dire. Oui. C'est eux qui m'ont ouvert les yeux d'abord sur les champignons. C'est mon prof de bio de 5e qui m'a dit, tiens, qui nous a dit à tous, bah, ramenez des champignons pour la semaine prochaine. Puis là, moi, j'ai pas décollé de la consigne, ça fait 50 ans. Et puis, c'est aussi, bon, c'est toutes les formations que j'ai eues. Et en fait, moi, j'ai été formé à une époque où on voyait très bien l'importance de la prédation, l'importance du parasitisme. On voyait l'importance de la compétition au sein ou entre les espèces, donc de ces forces un peu négatives. Et elles existent. Elles ont fondé, d'ailleurs, historiquement, la vision que Darwin avait de l'évolution. Mais j'ai vu, au détour de certains cours, émerger aussi le fait que des organismes coopéraient, qu'il y avait des harmonies dans le monde. Et ça, c'était complètement inattendu. Alors, en mélangeant les champignons et ces harmonies inattendues, moi, j'ai eu envie de travailler sur comment les champignons aident les plantes. Mais c'est une des multiples façons de comprendre comment des espèces différentes peuvent collaborer. Et dans mon livre, j'explique que c'est un long chemin, c'est pas évident, mais ça arrive. Et quelque part, c'est une des excitations modernes, c'est d'ajouter à notre vision du monde, et notamment à notre vision de l'évolution, d'ajouter la coopération, ou ce qu'on appelle plus techniquement entre espèces le mutualisme, les liens à bénéfice réciproques, dans notre façon de comprendre le monde, et demain, de le gérer. Parce que demain, ces microbes font notre santé. Mais déjà hier, ils ont fait notre alimentation, n'est-ce pas ? Alors, à tous les aliments fermentés, c'est l'histoire de microbes qu'on a déjà utilisés à bénéfice réciproque.
Et donc, dans les laboratoires, on étudie ces microbes, ces champignons, on sait qu'ils peuvent dépolluer, et on pense aussi qu'ils peuvent apporter beaucoup de molécules pour la santé, justement.
Mais je veux juste vous parler de votre alimentation quotidienne. Historiquement, pourquoi est-ce qu'on mange du chou? Pourquoi est-ce qu'on mange du pain? Pourquoi est-ce qu'on boit de la bière? Pourquoi est-ce qu'on mange des fromages? Parce que, au tout début, ces aliments n'étaient pas si comestibles que ça. Nous avons été sélectionnés au cours de l'histoire pour digérer le lactose, qui est un des composants majeurs du lait. Mais nos ancêtres ne digéraient pas le lactose. Leur seule façon de le digérer, c'était de faire du fromage. Où les bactéries mangeaient le lactose, de telle sorte que le lait leur devenait comestible. Historiquement, le chou est une plante toxique. Il faut la fermenter avec des bactéries qui la détoxifient pour la rendre comestible. Et là où, au-delà des détoxifications, ces microbes nous aident et nous protègent aussi, c'est que en envahissant ce milieu, les microbes qu'ils fermentent font un écran aux pathogènes. Il n'y a rien de mieux que la flore de la croûte du Saint-Nectaire qui vient de la cave, hein, pour empêcher la listeria et les autres bactéries toxiques de s'installer sur un fromage. Et en plus, comme ils sont vivants dans l'aliment fermenté, les stocks qu'on fait d'aliments, les vitamines se dénaturent. Mais quand vous avez des cellules de microbes vivantes, il y a des vitamines dedans. Votre yaourt est une source de vitamine B.
Et la Terre est un océan de bactéries.
Et la terre, et l'alimentation notamment, sont un océan de microbes, et c'est aussi une bonne nouvelle.
Qu'est-ce que vous en pensez, Florian Bartsch, de la compagnie New? Est-ce que vous pensez que va sortir de tout ça une chanson originale?
Bah, aujourd'hui, une belle chanson, mais j'aimerais bien vous inviter pour être notre invité pour la fin de l'année, pour peut-être parler dans le spectacle, parce que c'est tellement inspirant. Voyons quel style de musique et quelle chanson on va entendre.
On écoute Antoine Lefort au piano et Perrine Maigret chanter.
Il y a l'infiniment grand
qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qui compte, c'est ce que tu ne vois pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qui compte, c'est ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas, ce qui compte, c'est ce que tu ne vois, c'est ce que tu ne vois pas.
C'était un beau résumé de vos propos, Marc-André Cellos.
Ah oui, et c'est aussi une réponse, Fabienne, à la question que vous posiez tout à l'heure. Savoir comment est-ce qu'on peut raconter aux gens les microbes qu'on ne voit pas, comment est-ce qu'on peut introduire l'invisible, peut-être en chanson, et c'est super. Alors j'ai cru discerner l'ombre d'une invitation, donc si je peux venir avec mes microbes, je viendrai.
Avec
voilà,
plaisir.
Voilà, donc une dernière question, Marc-André Cellos, au bout du compte, qu'est-ce que vous aimeriez trouver?
En tant que scientifique, j'ai passé l'âge où j'ai envie de trouver quelque chose, moi. Ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble des jeunes chercheurs que je forme, mes thésards et des postdocs qui travaillent avec moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils trouvent un job, déjà. Donc ça, ce serait une première trouvaille d'utilité. Et puis, j'aimerais surtout qu'ils puissent s'épanouir dans leur existence. Arrivé à ce point, on peut trouver des tas de choses scientifiquement intéressantes. Les deux facteurs limitants sont, d'une part, effectivement, l'épanouissement de nos jeunes chercheurs, et ça, c'est vraiment problématique en ce moment, et puis aussi la transmission dans le public, parce que vous savez, malgré des émissions comme la vôtre, on a beaucoup plus de choses à raconter que d'oreilles pour les écouter.
Merci beaucoup Marc-André Cellos, merci infiniment à la troupe New, Florian Bartsch, Antoine Lefort et Perrine Maigret. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous, Florian Bartsch, aujourd'hui ?
Un bon spectacle d'improvisation, c'est un spectacle où on prend le plaisir d'être sur scène et le public aime ça. Et ce matin, c'était un réel plaisir. Je pense aujourd'hui, je peux parler au nom de toute la troupe.
Merci beaucoup, merci à tous les trois. La prochaine représentation de New Science, la comédie musicale improvisée à partir d'un thème scientifique, aura lieu le 1er juillet au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris. Et je rappelle le titre du livre de Marc-André Cellos, « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Ce livre est paru chez Actes Sud. Un grand merci à Christiane Alain Favre, avec qui je travaille depuis 6 ans, mais qui a choisi de partir pour de nouvelles aventures à la fois bretonnes et jurassienne. Franchement, elle va me manquer beaucoup, beaucoup. Merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission cette semaine. À la technique, il y avait Renan Mahé et Maxime Ingrand. Les Saventuriers, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette année. Je vous souhaite à tous un très bel été.